Louis Le Hardy de Beaulieu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes professeur à l'École des sciences politiques et sociales de l'UC Louvain. Et aujourd'hui, nous allons parler de droit institutionnel et plus précisément du concept finalement d'immunité parlementaire. En effet, dans le cadre du dossier Qatargate, on apprend que la justice belge demande la levée de l'immunité parlementaire de l'eurodéputé belge Marc Tarabella et de l'italien Andrea Cozzolino. Alors, ma première question sera la suivante. C'est quoi finalement une immunité parlementaire?
Alors l'immunité parlementaire qu'on connaît aussi bien au niveau européen qui nous intéresse ici qu'au niveau national, ce qui nous intéresse aussi mais indirectement, a pour origine dès le 19e siècle de veiller à protéger à la fois l'institution parlementaire pour la soustraire à des risques potentiels d'influence ou de pression de la part du pouvoir exécutif. Et donc on a voulu, pour se faire protéger leurs membres, mais en disant, dans certains cas, il doit être possible de veiller à ce que, tout en protégeant l'institution parlementaire, on ne donne pas une forme d'impunité, ce qui n'est pas l'immunité, mais d'impunité aux parlementaires. Alors, dans le cas qui nous occupe, on a au fond, au niveau européen, une immunité qui se développe sur trois axes, sur trois piliers. Un premier pilier qui est, et c'est assez logique en fait, la garantie de la liberté de déplacement, puisqu'on a là des parlementaires qui viennent de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne et qui doivent pouvoir se rendre, par exemple, aux sessions plénières, aux sessions de commission de l'Assemblée européenne. Et puis, éventuellement, ils doivent pouvoir se déplacer d'un pays à l'autre pour rencontrer des gens, etc. Donc, c'est un premier élément qu'on connaît moins dans les ordres juridiques nationaux, mais qui est la liberté de déplacement à travers l'ensemble de l'Union. Et puis, il y a deux autres axes qui sont parfois un peu confondus. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'irresponsabilité parlementaire, qui est un peu l'héritage du freedom of speech britannique, qui consiste à protéger de manière totale les parlementaires pour les propos et les votes qu'ils émettent dans l'exercice de leur fonction parlementaire. On dit qu'ils ne pourront jamais être poursuivis d'aucune manière à partir de la confirmation de leur élection et jusqu'à leur mort pour ces propos et ces votes tenus dans le cadre de l'action parlementaire. Et cela, c'est total, absolu, et ça ne peut faire l'objet d'aucune levée d'immunité parlementaire. L'irresponsabilité est totalement protégée. Par contre, et c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement dans les dossiers d'actualité dont nous entendons parler ces derniers temps, à côté de l'irresponsabilité, il y a ce qu'on appelle l'inviolabilité parlementaire. Et cette inviolabilité, elle concerne l'hypothèse où une ou un parlementaire se rendrait éventuellement coupable, ou dont on pourrait croire qu'il s'est éventuellement rendu coupable, à voir, d'infractions qui sont au fond des infractions de droit commun, comme n'importe quel autre citoyen. Et là, on se dit, la réflexion doit être différente que dans le cadre de l'irresponsabilité. On doit à la fois protéger l'institution parlementaire pour qu'il n'y ait pas des risques de pression à son égard en disant « Ah, on pourrait mettre tel ou tel de vos membres en accusation, voire l'arrêter s'il ne vote pas comme le pouvoir exécutif le souhaiterait » ou bref, ce genre de choses, plus particulièrement. Donc ça, on veut éviter, mais en même temps, on ne veut pas donner une impunité totale, comme je le disais, à ces parlementaires. Et dans ce cadre-là, on dit, pendant les périodes de session parlementaire, lorsque le Parlement se réunit, les parlementaires ne peuvent pas être en principe poursuivis ou arrêtés, mais en dehors des périodes de session parlementaire, c'est possible. Ceci étant, dans la pratique, c'est assez rare qu'il soit possible de les poursuivre dans les périodes d'intersession, puisque dans la pratique aujourd'hui, bien souvent, une session se clôture à la veille de l'ouverture de la session suivante. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le système européen, le protocole spécifique qui est destiné aux immunités au niveau de l'Union européenne prévoit que les membres du Parlement, s'ils devaient faire l'objet éventuellement d'investigations d'un type ou d'un autre, devraient être, je dirais, pris, ou en tout cas leur cas devrait être pris en considération d'une manière un petit peu différente selon que ces investigations se passent sur leur territoire national, le territoire national du pays dont ils ont la nationalité, ou dans un autre pays de l'Union européenne. Et donc, par exemple, si c'est sur le territoire dont le parlementaire a la nationalité, eh bien, il jouit des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur propre pays. Donc, dans notre cas, ce serait l'article 59 de la Constitution qui s'appliquerait. Voilà. Pour les autres, il y a un statut un tout petit peu différent qui se met en place.
Et donc, justement, dans le cas de Marc Tarabella et d'Andrea Cozzolino, la justice belge veut donc lever leur immunité parlementaire. Est-ce que dans ce cas-là, il existe un appel, comme dans les procédures judiciaires standards, j'ai envie de dire, pour justement qu'ils ne se fassent pas retirer cette immunité parlementaire ?
Alors, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir le système le plus démocratique possible, c'est-à-dire demander à l'Assemblée dont ils sont membres, et donc cette Assemblée est composée de personnes élues au suffrage universel direct par l'ensemble des citoyens européens, dès lors qu'on parle du Parlement européen, de demander à cette Assemblée, sur la base des documents qui sont fournis par l'autorité judiciaire qui demande la levée de l'immunité parlementaire, il leur est demandé de dire « nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord pour la levée de cette immunité en vue d'éventuelles poursuites et d'un procès qui déterminera si l'intéressé est coupable de quelque chose ou ne l'est pas. » Et nous savons très bien qu'il y a un principe général de droit qui prévoit le principe de la présomption d'innocence. Donc, c'est l'ensemble des représentants de la population européenne qui décide simplement s'il est possible ou pas de poursuivre la procédure pour aboutir éventuellement à une mise en accusation. Si cette mise en accusation doit avoir lieu devant les cours et tribunaux, à ce moment-là, la personne bénéficiera de toutes les garanties de la procédure judiciaire pourra se défendre, faire valoir ses arguments, et au terme de ça, on voit, pour me répéter un peu, mais si cette personne est susceptible d'être condamnée pour un fait ou pour un autre.
Outre ce cas du Qatar Gate, est-ce qu'il y a un cas notable où justement un député a pu, entre guillemets, faire jouer son immunité parlementaire et se, entre guillemets encore, tirer d'affaire ?
Non, faire jouer son immunité parlementaire, c'est uniquement en matière d'inviolabilité, quelque chose qui n'est pas un espèce de joker que le parlementaire peut utiliser, qu'il protège. Il peut, il est protégé par cette immunité, mais c'est le Parlement qui décide s'il y a ou non lieu de lui retirer cette immunité pour permettre sa poursuite pendant une période de session. Donc il ne peut pas dire « Ah, Joker, non, vous ne pouvez rien contre moi parce que… » On dira « Non, cher ami, c'est le Parlement qui décide si on peut ou si on ne peut pas vous poursuivre. Par exemple, c'est pas à vous de décider, vous n'avez pas donc cette possibilité de repousser ce bouclier qui vous protégerait. Ça n'existe pas comme tel.
Merci beaucoup, Louis Le Hardy de Beaulieu, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur à l'École des sciences politiques et sociales de l'UC Louvain. Merci beaucoup pour vos éclairages.
Je vous en prie.